Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Laura Felpin, qui s'est fait connaître du grand public grâce à ses personnages fabuleux dans Quotidien et également sur la scène des Césars 2020 et avant ça sur ses réseaux sociaux. On discute de son parcours depuis son enfance dans la banlieue de Mulhouse, de son rapport à sa sœur et à ses parents et du chemin qui l'a amené du monde du doublage jusqu'à Quotidien. On discute aussi des raisons qui l'ont amené à ne plus apparaître à l'antenne pour l'instant et de ses projets à venir pour 2021. Merci d'avance pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous et prenez le temps de mettre 5 étoiles et un cool commentaire sur Apple Podcasts, s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute. Merci beaucoup Laura d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir dans le podcast.
Je suis ravie d'être là.
Je t'ai convié à venir et tu m'as dit « j'adore les podcasts, je viens quand tu veux
». C'est vrai que j'adore les podcasts.
C'est un vrai truc.
Oh, ouais, j'adore les podcasts. Moi, tu sais, j'ai beaucoup bossé dans le monde du doublage et de la voix et, ouais. Je trouve qu'on peut faire tellement de choses, enfin, passer tellement de choses par la voix. C'est hyper cliché ce que je dis, mais c'est vraiment ça. J'ai été jurée cette année au Paris Podcast Festival parce que moi, je suis hyper fan de tout ça. Et donc, non, je suis ravie et je fais... quasiment. Je ne fais pas tous les podcasts qu'on me propose parce que je pense que vraiment les gens auraient marre d'entendre les mêmes choses 15 fois, mais j'adore le tien et du coup j'étais ravie que tu m'invites.
Ah, ça me fait plaisir. Ouais. On va reparler un peu de ta vie, tu sais.
Bah ouais.
Ta vie.
Ouais, je suis prête.
Ta vie, ton œuvre. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais, Laura, quand tu avais 7-8 ans ?
Oh, quand j'avais 7-8 ans ?
Ouais.
Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai toujours été hyper gringalette. Ce
ah ouais
qui peut paraître étrange aujourd'hui, parce que je suis un peu joufflue. Mais j'étais très, très fine. Ouais, j'étais... je pense que je suis très vite devenue surexcitée. En fait, ma mère m'a dit, t'étais un bébé très calme. Dès lors que tu as eu l'usage de la parole, c'était fini pour nous. Tu n'as fait que parler. Et je crois qu'à 7-8 ans, j'étais quand même bien... On m'appelait le Zébulon, donc j'étais tout le temps au taquet. Donc j'étais hyper vive, quoi. Très, très vive. Et en même temps, 7-8 ans... j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des yeux, moi. J'ai eu un problème de strabisme, donc tu sais, j'avais des caches. Une année, j'avais un cache à l'œil droit, une année, j'avais un cache à l'œil gauche. Je me faisais opérer des yeux, donc c'était pas facile non plus, je crois.
Ah ouais ?
Ouais, c'était un peu des moments où... Mais tu t'en sors... Enfin, je m'en sortais toujours un peu parce que j'avais un peu d'humour, quoi. Donc ça marchait bien.
C'était une façon de compenser, c'est ça ?
À fond, mais oui. Mais moi, je trouve qu'on est drôle. En fait, je trouve qu'on est vraiment drôle comme ça dans la vie, quoi.
C'est-à-dire,
quand tu... Enfin, c'est pas tout le temps de la compensation, mais moi, je sais qu'il y a un moment donné dans ma vie où, clairement, j'avais une sœur qui était blonde, aux yeux verts, sublime, qui faisait les couvertures de magazines pour bébés tellement elle était belle. Les gens s'arrêtaient dans la rue pour dire qu'elle était sublime, ce qui était vrai, tu vois.
Une petite sœur ?
Une grande sœur.
Une grande sœur.
Et moi, à côté, j'avais mon cache, ma mère me faisait des coupes au bol. Enfin, tu vois, je me trouvais vilaine, je pense. Bon, j'étais mignonne quand même. Hein. Maintenant, quand je me regarde, je me trouve chou, mais j'étais hyper rigolote, quoi. Je pense que j'ai vraiment fait en sorte qu'on me remarque par d'autres moyens que le physique, tu vois.
Et,
je crois.
Et ta sœur a moins ce truc-là ? De la blague ?
Ma sœur, ah ouais, elle est hyper bon public, en revanche. C'est le meilleur public que tu peux avoir.
Forcément.
C'est vraiment le meilleur public, grave. Elle est quand même rigolote, mais un peu plus malgré elle, tu vois. C'est ouais. Moins provoqué, c'est pas son métier du tout. Et elle est toujours sublime. En fait, ce qui est très perturbant, c'est que c'est une version de moi en blonde aux yeux verts. Donc vraiment, tu sais, tu te dis, ah, ça aurait pu être cette version un peu améliorée, tu vois, quand même. C'est ça que je me dis souvent.
C'est
mais
marrant.
C'est trop cool entre nous aujourd'hui. Donc,
Et t'as grandi avec ça ?
Ouais, quand même. Ouais. Mmh.
Ouais. Dans l'ombre de ta grande sœur.
Ouais, elle, je pense qu'elle s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui je prends beaucoup de place et que forcément quand tu fais un métier en plus qui est vachement médiatisé dans la famille, tout de suite la famille un peu moins proche, ça devient tout de suite tout le temps des discussions, t'es toujours au centre du truc, donc t'essaies un peu de t'éclipser. Et je pense que des fois ça c'est lourd pour elle parce que tu vois, elle fait un métier, elle était longtemps assistante sociale, maintenant elle devient un professeur des écoles et c'est des métiers où on pose moins de questions aux gens. Enfin, tu vois, fatalement, moi à côté, on me demande 15 fois par jour. Et cette personne qui était à l'émission et ce truc et tout. Donc, c'est un peu. Je pense que c'est dur pour elle. Pas du tout par jalousie, mais parfois juste pour nos positions dans la famille. Et pourquoi je disais ça? Je me rappelle plus.
Non, parce que je te demandais si tu avais grandi dans l'ombre de ta...
Ah oui, et que du coup, je pense qu'elle ne se rend même pas compte à quel point pour moi elle a été un modèle et je lui ai piqué toutes ses fringues entre les années 90 et les années 2000. Tu vois, c'était vraiment un modèle pour moi et je pense qu'elle se... elle croit toujours, elle a toujours peur que ça s'inverse, que ce soit moi qui soit devenue la grande sœur et tout, parce que je prends un peu cet espace-là. Ah. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment.
Tu lui as déjà dit ou pas?
Non, elle l'entendra. On ne dit pas ce genre de choses.
Pourquoi on dit... Je sais pourquoi on ne dit pas ce genre de choses.
Bah, c'est vraiment, on a un grand jeu, c'est on s'appelle ma puce pour se dégoûter. On se dégoûte tout le temps. Elle me fait ma puce et on a un problème avec la tendresse chez moi. Et donc, c'est très drôle. Avec ma sœur, on a ce truc-là quand même de... On est très proches et très différentes en même temps, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un rapport un peu particulier que j'ai avec ma sœur.
Ok.
Ouais.
Est-ce que ça viendrait pas un peu de genre de l'Est, toutes ces histoires
de
pas partager ses émotions, tu vois?
Ah, peut-être. C'est une bonne question, en vrai. Parce que ça doit peut-être être relié au fait qu'on soit un peu presque allemand. Et donc assez strict. Non, de quoi ça vient? Ça vient des générations. Mais les générations d'avant dans ma famille sont hyper présentes, quoi. Mes grands-parents du côté de ma mère sont encore vivants. Je suis très proche d'eux. C'est pas du tout des gens qui disent je t'aime, c'est pas du tout des gens qui... Et moi, mes parents m'ont pas beaucoup touchée, tu vois.
Ouais.
Genre, j'ai pas l'habitude des câlins, j'ai pas l'habitude de la tendresse et tout. Même s'ils étaient hyper présents et ils étaient tendres par bien des manières, force est de constater à 30 ans que quand on me fait un câlin un peu trop pressé, je suis là genre, oh non, pas ça.
Mais je pense que c'est un truc de l'Est.
C'est vrai, pourquoi?
Je sais pas, mais un truc de l'Est, ouais. Un truc du Nord, un truc de toutes les régions... Ouais. Genre minière, industrielle, etc.
Ah, c'est peut-être,
etc.
Peut-être, ouais.
Ou des gens un peu durs au mal, tu sais.
Ouais.
Et je pense que si tes parents, ils font pas... Enfin, tu vois, ils t'ont pas fait de câlin, c'est parce qu'eux-mêmes n'en ont pas reçu, tu vois. Donc,
je
y a
pense
un
que
truc,
c'est
un
ça,
peu
ouais.
De transmission.
Ouais, ouais.
Et je connais trop de gens de l'Est, en fait, qui ont un peu de mal avec
c'est
ce côté très...
Okay, c'est dingue, il faudrait
me touche pas trop, s'il te plaît.
Ah ouais.
Tu vois, c'est parce que, tout simplement, c'est pas... C'est
ah
pas...
Ouais.
C'est dur, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, peut-être, t'as raison, il faudrait faire une étude sociologique là-dessus. Les gens de l'Est et la tendresse. C'est vrai.
Donc, bon, déjà, tu grandis 7-8 piges, ouais. T'es déjà une blagueuse, quoi, tu vois.
Ouais, je suis dans la déconne. Ouais.
Comment se passe pour toi le collège et le lycée? En fait, je me dis, à partir de quand tu as commencé à te dire, ok, ça pourrait être un métier?
Très, très tard.
Très tard.
Je me suis jamais posé la question de si ça allait être un métier ou pas. Parce que moi, j'ai toujours un peu été dans l'imitation aussi. C'est-à-dire que mes premières vannes, c'était imiter mes profs, comme tout le monde, je pense. Mais c'était vraiment l'observation, en fait. Et je pense que c'est ça qui faisait rire les gens. Et je comprenais que ça faisait beaucoup rire ma mère, par exemple, quand j'imitais mon prof d'histoire, parce qu'elle se disait, putain, elle le fait quand même bien. Et donc, j'étais toujours un peu dans l'imitation et tout. Et mon père étant quelqu'un qui est un assez bon orateur, quand même, je dois dire, je crois que je m'en sortais très bien à l'oral. Donc, collège et tout, j'avais ma petite bande de copines, je faisais partie des meufs un peu populaires et tout, tu vois. J'ai toujours fait partie plus ou moins des meufs qui étaient un peu... on aimait bien traîner avec moi, c'était pas, on se faisait pas trop chier.
J'imagine, ouais.
Et bon, ça allait. Et après, j'étais toujours, tu vois, j'étais pas une... Je parlais beaucoup en classe, mais j'étais pas du tout non plus un élément. J'ai jamais posé problème, tu vois. J'étais pas affirmée à ce point-là, quoi. Et j'aimais beaucoup le sport, puisque mon père était j'aimais beaucoup le sport. Avais-je le choix de l'aimer? Mon père était vraiment un mec qui nous saoulait avec le sport. Vraiment, faut dire la vérité. Il nous obligeait à regarder Stade 2 tous les dimanches. On n'en pouvait plus. Et lui, il voulait absolument que je fasse sport-études volley à l'époque, parce qu'il y avait une section sport-études volley.
T'étais volleyeuse?
J'ai été volleyeuse. Alors, comme j'étais petite, j'étais passeuse. Et on avait un groupe un peu de trois copines comme ça.
Est-ce que tu fais partie de la génération Jeanne et Serge ou bien?
Ah non, non c'est quoi tout. Ça
Ah bah ok, bah alors vraiment truc... côté de la plaque.
C'est quoi, c'est des volets, c'est des gens qui faisaient du volet?
C'est un dessin animé japonais
ah non, pas du tout.
Sur le volet. Mais en fait, bah, moi quand j'étais jeune, ouais. Donc on a quoi, 15 ans d'écart. Mais en fait, comme ce dessin animé a beaucoup été rediffusé, mais à l'époque ça avait fait exploser les licences au volet quoi.
Attends, mais ça me dit un truc, ils étaient tous très grands, très fins.
Oui, comme dans tous les mangas. Oui, après, ils sautent. Si tu veux, ils faisaient un smash et en fait, pendant 10 minutes, elles réfléchissaient, elles pensaient à ce qui allait se passer tout, juste avant son smash.
Mais bien sûr, et on avait toute la pensée pendant qu'elles smashaient. Mais ça me dit totalement quelque chose.
Tu regarderas, tu chercheras
avec
sur Internet.
Avec des ambiances un peu, ils avaient des trucs un peu blancs et bleus. Ouais. Non voilà, c'est bon, je l'ai.
Et puis Jeanne, elle était rouquine, tu vois.
Oui, exactement. Exactement. Bah, je me rappelle très bien. Alors, c'était pas cette ambiance-là, okay, Mimouzin, au collège à Kingersheim. C'était pas cette ambiance-là, au collège Émile Zola. Mais ce qui était dur pour moi, c'est que j'ai été refusée dans cette classe de voler plus, parce qu'en fait, on avait beaucoup de conflits d'intérêts avec ces trois copines avec qui on se disputait souvent. Marie et Laetitia, on était trois, un petit groupe de trois. Et on se met un peu, tu sais, il y en a une qui parlait à l'autre. Tu sais, c'était horrible, c'était des semaines où quand t'étais malade, quand tu revenais, ta pote, elle te parlait plus, tu savais pas pourquoi. Et en fait, elle s'était liguée avec l'autre et tout ça. C'était un grand truc pour moi. Deux, les gens, ils switchaient vachement, on s'embrouillait vachement. Et du coup, j'ai amélioré mes résultats scolaires la deuxième année pour pouvoir rentrer dans cette classe qui m'avait été refusée soi-disant sous prétexte que j'avais pas plus de 12 de moyenne et tout. Et en fait, on me l'a refusée. Et là, quand même, pour moi, j'ai commencé une sorte de phase d'anorexie qui a duré quand même un an et demi où j'ai eu une sorte de mini-choc, tu vois. Et,
à cause de ce refus, tu penses?
Alors, a fortiori, je pense que j'avais besoin de communiquer avec mon père, que je savais pas trop comment faire, que ça a été un peu ça, une sorte d'appel à l'aide, comme tous les ados, tu vois, à ce moment-là. Mais ça a déclenché. C'est-à-dire, le jour où j'ai appris ça, j'ai eu un problème avec mes spaghettis à midi, je m'en rappelle très bien.
Ok. D'accord.
C'est bizarre, hein?
Maintenant, non, oui, c'est, comme tu dis, c'est un message comme un autre.
Quoi. Ouais, donc fin collège, un peu nul par rapport à ça, mais j'aime, tu vois, j'ai toujours été quand même très bien entourée, ça s'est très vite calmé, ce truc-là. Et voilà, mais quand même populaire, donc ça va, collège sympa.
Mais donc, pas sport-études? Pas de sport?
Pas sport-études, plus tard en athlétisme.
Ok.
J'ai fait beaucoup d'athlétisme après. Et là, c'était génial. C'était des grandes années sport au lycée et tout ça. C'était vraiment trop cool, quoi.
Tu faisais partie des cool kids, c'est ça qui était en sport-études?
C'est pas tellement. Ils avaient pas trop le... On avait pas trop ce truc-là. Mais ce qui était cool, c'était d'avoir un vrai truc de... On découvrait pas l'alcool, la fumette et tout. On était dans un truc très sain. Et en vrai, je souhaite ça. Enfin, moi, si je fais des enfants un jour, c'est un truc que je leur souhaite vachement. C'est que du coup, t'apprends tellement de choses différentes en étant en collectivité, en faisant plein de trucs, dans le sport et tout, le dépassement de soi-même. Mais surtout, t'es à l'écoute de ton corps. Il y a plein de choses que t'apprends avec le sport. Et donc, je suis assez ravie que mon père m'ait un peu forcé. Après, il m'a forcé à faire des trucs genre de la natation. Je déteste, tu vois. Je le déteste. Mais en
mais
même temps,
c'est...
Ton père
faisait du sport ou il était fan de sport?
Mon père est éducateur sportif pour les handicapés. Après, il est devenu éduc spé et il s'occupait de la retraite aujourd'hui. Il s'occupait de la réinsertion des handicapés dans le milieu du travail, tu vois, des handicapés légers. Donc, on a fait tous les télétons de notre vie, on les a fait avec lui. Mais surtout, il adore le sport. Mais c'est vraiment un fanat de sport, tu vois. Il m'envoie tous les jours des trucs sur le Vendée Globe. Donc, je me fous totalement depuis genre 20 ans, tu vois. Mais il me dit, tu croiras jamais ce qui s'est passé hier. Et je dis, non, vraiment pas, parce que je m'en fous. Mais c'est hyper drôle. Et du coup, ça comptait vachement pour lui, ça, qu'on fasse du sport. Il a entraîné des équipes de basket avec
toi.
Ma sœur, ouais. Ma sœur, après, elle a arrêté assez vite. Elle lui a assez vite dit que ça la saoulait. Elle a plus vite été en opposition avec mon père que moi.
Donc, et toi, t'étais plutôt à suivre ce que papa voulait que tu fasses?
Ouais, j'aimais bien faire de l'athlétisme et c'était cool de le voir fier de ça. Après, j'ai eu un petit frère qui est né d'un second mariage de mon père. À 3 ans, il n'a pas eu le choix, quoi. C'était patinoire et tu feras du hockey. Et jusqu'à 17 ans, mon frère, il a fait du hockey. Jusqu'à ce qu'il dise à mon père... Forget, j'en ai marre de ton hockey de merde. Mais mon petit frère, à 4 ans, il patinait comme un génie, quoi.
Mais ok.
Ok, ouais.
Et surtout, non, mais en plus, plein de sports différents. C'est-à-dire que c'est pas...
Ah ouais, non, mais lui, c'est... Ouais, ouais. En fait, il voulait voir là où on réussirait. Et je pense que quand il a compris qu'on n'aurait pas le mental... Surtout moi et Léa, ma sœur, on était très fortes en cross et on détestait le fond. Parce que c'est chiant, si t'aimes pas ça, c'est dur, quoi. Et donc, moi, j'ai fait un peu du demi-fond, du 800 mètres et tout, mais franchement... Au mental, j'y arrivais pas, quoi. J'étais pas là au mental. Il faut vraiment un mental de fou pour faire ça. Surtout l'athlétisme, où tu sais que si tu te professionnalises, tu vas gagner 300 balles par mois à cause de ton sponsor et que tu vas continuer à être prof des écoles. Enfin, tu vois, il y a des mecs, ils font les JO, ils sont encore profs des écoles, quoi. C'est fou. Donc non, j'avais pas du tout le mental. Mais tout ce que j'ai pu en tirer à côté de bien, ça c'est génial. C'est génial. Dans ma tête, je suis d'ailleurs encore une très grande sportive, même si ça fait bien 10 ans que je n'ai pas fait de sport. Quoi.
Ceci dit, on en reparlera un peu après, mais tu fais très bien de ce fait-là, le coach de sport.
Mais j'ai... Et les gens, tu sais, pensent vraiment que je suis sportive souvent. Ils disent, ouais, t'es sportive, toi, et tout. Ouais, vachement, mais pas du tout. J'ai l'attitude, mais plus du tout le... Je suis là, je suis montée chez toi, j'ai envie de crever tellement j'ai pas de cardio, c'est affreux.
Ah ouais,
ah ouais, j'ai un problème, ouais. Je pense que j'ai un problème de cœur, mais bon.
Et il vit comment aujourd'hui ton père à devoir plus faire de sport? Est-ce qu'il est un peu là?
Oh non, il a lâché lui
j'ai
aussi.
J'ai tenté le coup, c'est bon.
Ouais, il a tenté le coup, il a lâché assez vite. Après l'athlétisme, quand même, on a fait quelques belles années, donc il s'est calmé. Ça l'a détendu. Puis il a eu un fils sur lequel il a projeté bien plus d'attentes, donc ça sonne, mais c'est tranquille. Le fils de la famille. Et non, du coup. A fortiori, je pense qu'il est assez content de voir que ses enfants aiment bien ça. Parce que moi, j'avoue que regarder un match de handball avec mon père, c'est génial. Regarder du sport avec
de
mon père.
De handball ? Attends, s'il te plaît.
Ouais.
Pas de handball ? Toi qui viens de l'Est, en plus. Qu'est-ce que
de
c'est
de handball ? Ouais, c'est vrai. Putain, c'est horrible. Le hand, c'est ouf à regarder.
Ouais.
Les gens, ils savent pas, mais c'est fou. Il peut se passer des trucs dans les 10 dernières secondes, quoi.
Ouais.
Comme au basket.
Basket, meilleur sport, hein. Tu sais, moi je suis.
Grand c'est vrai, t'es un fou. Moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment un sport fou. Ouais. Enfin, ce qui peut se passer dans les dernières secondes, c'est
meilleur
incroyable.
Sport.
Ouais, ouais, c'est vraiment génial.
Désolé pour tous les footeux ouais. Et tout, mais juste basket, meilleur sport. Voir.
Tellement meilleur sport le basket, ouais.
Et le hand, c'est un peu ça aussi, mais il y a un côté très. Pour moi, il y a un côté très rapide en fait.
Rapide et puis se fout un peu sur la gueule quand même.
Bien sur la gueule.
Handballeur, ouais. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, mon père, il a lâché le. Lui, il en fait plus non plus parce qu'il en faisait quand même pas mal avant. Il entraînait une équipe de basket. Et non, maintenant, il a la retraite, il vit sa meilleure life. Mon père, c'est vraiment, si quelqu'un a peur d'être à la retraite, il faut aller faire un repas avec mon père, quoi. Mon père, c'est, il regarde tout ce qu'il y a sur Netflix, sur Canal, tu sais, il a le complexe des gens qui n'avaient pas d'argent, donc il a tous les abonnements possibles de la Terre.
Oui.
Donc il regarde toutes les séries, les bonnes séries, il est trop content, il fait du vélo d'appartement devant ses séries et tout, il fait un peu de bénévolat à gauche à droite, il est hyper marrant, donc franchement il vit sa meilleure vie là. Dans le sport, via la télé, hein. C'est un grand sportif de télé mon père. Mais tu sais, de voir les gens vivre aussi fortement leurs émotions quand ils regardent du sport, c'est fou.
Ouais.
Quand ils regardent Roland Garros, mon père, c'est un ouf, tu vois.
Ah, ok.
Ouais, il est... Je me rappelle, moi, j'ai des souvenirs de la voisine qui toquait pour dire si vous pouvez faire moins de sport quand c'était à l'époque, ça devait être les JO, les championnats du monde avec Marie-Josée Pérec. Je m'en rappelle très bien, il a tellement hurlé qu'il y a une voisine qui est venue nous dire vous pouvez faire vraiment moins de bruit, quoi. C'est... Et c'est fou, ouais, j'ai des bons souvenirs de ça avec lui.
Ok.
Ouais.
Donc, lycée.
Ouais.
Ça se passe bien, ta vie ?
À fond. Lycée, j'ai un groupe de copines qui s'appelle Abenga, dont j'ai déjà parlé dans un podcast. Et les gens parfois m'écrivent sur Insta, mais j'avais un groupe de meufs. Franchement, on était les meufs populaires du lycée. On s'appelait Abenga, on était 8-9 meufs comme ça. Et on s'amusait trop, c'était trop bien.
T'es encore en contact avec elle aujourd'hui ?
Ouais, j'ai encore plus ou moins... Alors j'ai ma meilleure amie, Anouk, qui faisait partie de ce groupe-là, qui habite en Alsace, mais qui est vraiment... tu vois, sur 5 personnes, la personne que je vais contacter tout le temps dès que j'ai un truc, même quand j'ai pas un truc, c'est vraiment une de mes meilleures potes, quoi. Et Floriane et Barbara, que je vois encore souvent, qui habitent à Paris, enfin que je vois moins, mais dont je me sens très proche. Tu sais, il y a des gens que t'as pas besoin de voir souvent pour savoir que t'as vraiment un lien avec eux, quoi. Et après, toi, 2-3 meufs sont parties en vrille, je sais même plus ce qu'elles font maintenant. Je crois qu'il y en a une qui ont eu des gosses et tout. Oh, je sais plus ce qu'elles font maintenant. Mais c'était très marrant le lycée, ça c'était cool.
Tu fais quoi après ton bac?
Oh, n'importe quoi.
C'est vrai.
Je fais n'importe quoi. Non, mais ça, je fais, tiens-toi bien, parce que je fais vraiment n'importe quoi. En gros, ma mère, bon, je me dis vaguement, j'aime bien parler espagnol, pourquoi pas prof d'espagnol. Mais je suis franchement toujours dans ce mimétisme, quoi. C'est-à-dire, j'adore les profs. Je trouve que les profs, c'est vraiment des théâtreux, quoi. Enfin, tu vois, les bons profs, ils peuvent vivre. Tu te rends compte, il y a des profs, ils enseignent, et pour les gens, tu vois, toi, t'as des profs dont tu te rappelles dans ta tête, et tu te dis, elle était magnifique, elle était géniale. Ils vieillissent jamais, tu vois, aux yeux de leurs élèves. Il y a un truc un peu comme ça, incroyable dans la mise en scène d'être professeur. Donc j'aimais beaucoup ça, tout ce qui était prof. Donc je me disais, je vais être prof, et d'espagnol, pourquoi pas, je trouvais ça sympa. J'avais une super prof d'espagnol.
Ça me fait penser à un truc, mais juste petite anecdote perso.
Si.
J'ai fait une première année de Doug, moi, genre bac plus.
Ouais, Doug, t'es vieux comme moi.
Je suis
moi.
Vieux, moi.
Ouais, c'est bien.
Non, je suis plus vieux que toi.
Parce que Doug, c'est vraiment un truc qui n'existe plus.
Et en anglais.
Ah ouais.
Et en gros, cours magistral, il y avait grands amphis à Lille 3, genre 500-600 personnes. La meuf nous a fait Hamlet.
Ah putain.
dingue, vraiment. Ouais, elle nous a fait une synthèse d'Hamlet hilarant, ouais, à crever de rire, standing ovation.
Ouais. Non,
je te jure.
Bah, tu vois.
Tout le monde s'est levé.
Bah, tu vois, c'était
fabuleux.
C'est fabuleux.
Et forcément, c'était l'une des seules profs où le cours était blindé, en fait, parce que...
Mais c'est tellement fou, ça. On se rend vraiment pas compte à quel point, dans l'éducation, ça compte tellement pour un élève. Enfin, moi, j'ai une prof de littérature en terminale qui s'appelait Madame Duval, qui était une sorte de meuf ultra sublime, tu vois, qui était hyper belle et tout. Mais la passion qu'elle avait pour la littérature... Moi, j'ai lu du Pascal. Pascal, c'est quand même des fragments de pensée... tu lis ça, t'as envie de t'exploser la tête contre un mur, ça te fait chier à mourir, tu ne trouves rien là-dedans. Mmh. Elle t'en parle de séance, tu comprends toute la poésie de Pascal, quoi. C'est une sorte de Lucchini, tu vois ce que je veux dire, ça te donne envie de t'y intéresser, c'est tellement important ça. C'est tellement important. Et du coup, j'avais une prof d'espagnol.
Donc, espagnol.
Claro que sí, que j'aimais beaucoup et j'avais envie de faire ça. Donc, j'ai réussi par un petit subterfuge à dire à mes parents, voilà, moi j'aimerais bien faire, comme je sais pas trop, ce serait bien que vous me payiez un petit voyage à l'étranger, quoi. Appuyé par mes voisins, à l'époque Brigitte et Baudouin, nos Belges, nos voisins, nos amis d'en face, qui avaient envoyé leurs enfants plus jeunes via EF, qui était une école, tu sais, où ils envoyaient les élèves à l'étranger, qui avaient dit à ma mère, franchement, tu vas voir, nous, Noémie et Emilien, ils étaient ravis de partir, ils avaient tous les deux beaucoup voyagé, ça les avait ouverts sur le monde, donc ils m'avaient bien aidé. Et ma mère me dit, ok, ben, on va t'envoyer au Costa Rica pendant un an. Tu vas faire du surf et tu vas apprendre l'espagnol l'après-midi et le matin, tu vas faire du surf. Ce à quoi je réponds, bah évidemment. Quel propale, super. Mais, puisque ça n'est pas si facile que ça. Donc, c'est quand même un voyage à 20 000 boules, quoi. Voilà, elles me payent, ils investissent, ils sont contents. Je vais partir en septembre, ils sont ravis. Et je vais dans une soirée chez une copine à moi qui s'appelle Tiffany à l'époque, qui est une nana que je connaissais du collège. Donc, je vais la voir et tout. Et dans cette soirée, je rencontre une meuf et je sais pas ce qui se passe dans ma tête et je tombe amoureuse de cette meuf. Et je me dis, bah voilà, ma poule, t'es lesbienne, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet de vie et tout? Et je vois cette meuf qui s'appelait Déborah et je me dis, bah c'est ma meuf quoi. Enfin, ce sera ma meuf, c'est sûr. Mais
est-ce qu'elle était au courant que ça allait être ta meuf?
Je pense qu'elle l'a senti aussi. En fait, ce qui était horrible, c'est que c'était la meuf de Tiffany. Tu vois? Donc c'était un peu dur parce que il s'est passé un truc hyper fort entre nous et on l'a un peu brimé genre les deux premières semaines quoi, tu vois. Très vite elle a quitté Tiffany, on s'est mis ensemble et j'ai dit à ma mère, bah je vais faire un prêt à la banque, je vais te rembourser le voyage au Costa Rica et je vais aller vivre à Strasbourg avec cette meuf. Pas la meilleure idée de ma vie. Pas la meilleure idée de ma vie pour deux raisons. Les mensualités d'abord financières. Et ensuite, étais-je prête à vivre cette histoire? Je ne sais pas. Voilà. Et surtout, je me suis dirigée vers des études de cinéma dont je n'en avais vraiment que faire. Très très loin de ce que j'aurais pu vivre, quoi.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Mais c'est ouf les carrefours de vie, hein, comme ça.
C'est fou. Et c'est pas un regret, enfin, c'est quand même un mini regret sur le côté Costa Rica parce que je pense que j'aurais adoré. Après, c'est une fille avec qui j'ai resté 3-4 ans, tu vois, 3 ans, je crois, et ça a été une expérience qui m'a beaucoup appris pour plus tard, tu vois, qui m'a permis d'avoir des relations saines avec les autres, de me découvrir. Je pense qu'en fait, ça m'a permis de. Parce que c'était très dur pour mes parents parce que déjà, ils n'ont pas beaucoup accepté ça. Enfin, c'était dur pour eux. Et surtout, moi, quand j'ai rencontré Déborah, je crois que 3 semaines après, je vivais à Strasbourg. Donc, j'avais pris toutes mes affaires et je me suis partie.
Ils n'ont pas accepté ton homosexualité, c'est ça?
Alors déjà, il y avait ce truc-là.
Ouais.
Qui était, pour moi, j'ai jamais fait de coming out. J'ai dit à mes parents que j'aimais une meuf, quoi. Et c'était hors de question qu'on statue là-dessus. J'en avais rien à foutre,
ah oui,
quoi.
Okay.
Ce qui était plus dur pour eux, je pense, c'était... Alors à la fois ma mère quand même, qui est quelqu'un de très ouverte, j'étais assez étonnée de sa réaction, qui m'a dit « Oh, ça va te passer ». Je dis « Bah non, enfin, je sais pas pourquoi tu me dis ça ». Et mon père, je lui ai dit ça, je me rappelle très bien, dans un restaurant à table chez des amis restaurateurs, et il m'a juste dit « Ok, je vais juste aller dehors fumer une clope ». Et vraiment, je le revois fumer sa clope un peu nerveusement comme ça dehors, tu vois, devant un Winstub alsacien comme ça. Avec Franca, qui est la patronne du restaurant, qui lui disait « Mais Patrice, elle n'est pas droguée, ta fille, ça va aller !» Je voyais un peu désespérée. Et mon frère qui était ravi, qui disait à tout le monde, ma sœur est lesbienne. Ma sœur est lesbienne. Il disait ça à tout le monde, c'était trop chou. Donc, c'était pas tant l'homosexualité, parce que moi j'en ai fait totalement un non-lieu, c'était le fait que je me barre, au lieu de me barrer au Costa Rica, je prenne des affaires, j'aille vivre avec cette meuf, j'allais faire des études, et en 2 semaines, j'étais plus chez ma mère, quoi. Et en fait, je pense, a fortiori, avec des années de thérapie, que c'est comme ça que j'ai arraché le pansement pour me séparer de mes parents, je pense que j'aurais pu rester chez mes parents jusqu'à 40 ans, moi, tu vois. J'aime trop ma mère, j'aime trop vivre chez mes parents, donc je pense que ça m'a aidé à arracher un truc.
C'est trop intéressant qu'ils t'avaient eux-mêmes mis dans cette situation pour arracher le pansement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils avaient préparé ce voyage au Costa Rica, qu'ils avaient financé Exactement. Et tout pour se dire, bah, en fait, elle va aller vivre sa vie.
Exactement.
Quoi.
Mais c'était quelque chose, je pense, qui leur convenait mieux, cette première solution. Tu
oui,
vois.
C'est ça.
Surtout qu'ils avaient pu l'anticiper, du coup. Il y avait une date de départ, tu sais comment c'est, puis après tu reviens. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment un tournant de ma vie, pour le coup, ça. Parce que ça ne m'a pas du tout amené aux mêmes endroits que je pense.
Bah, j'imagine.
Ouais. Ça aurait totalement changé les choses, je pense.
Ça vraiment le champion du monde de surf.
Peut-être. Ou prof d'espagnol, dans un lycée un peu nul à Nancy. Je sais pas. Mais peut-être que j'aurais été très heureuse.
Ouais.
Je sais pas. C'est vraiment un tournant, ça.
Ok. Ouais. C'est quoi la suite, alors, dans ton parcours, en fait? Parce que...
Tu veux dire professionnel?
En fait, dans ta vie. Parce qu'en fait, t'as cette histoire-là.
Bah, j'ai cette histoire-là qui dure quand même 3 ans, qui est très difficile, parce que... Mais d'un coup, je me retrouve aussi dans une lesbienne, dans une coloc de lesbiennes gays, mais on est... D'un coup, c'est LGBTQ+, tout ce que tu veux. On est... Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, je découvre un peu... C'est une série, quoi.
La culture,
quoi. La culture gay, tu vois. Je me rase les cheveux de côté. Mais je m'affirme pas très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de clivages à l'intérieur même de ces groupes-là. C'est-à-dire, moi, j'ai ressenti une grande injustice avec les lesbiennes, tu vois. Je trouvais que je fitais pas assez dans le truc. Et j'attirais beaucoup trop les garçons par rapport à ce que je voulais être, tu vois. C'est-à-dire, attirer que les filles et tout. Et à cette époque-là, d'ailleurs, Déborah, qui était très jalouse aussi de ça. Donc, c'était quelqu'un qui était très difficile avec ça. Parce que, tu vois, si un mec me draguait dans la rue, c'était pas facile pour moi après et tout. Il y avait en vrai... C'était une relation assez toxique quand même. Et du coup, j'ai eu une relation avec elle. Pendant 3 ans, je me suis vraiment coupée de toutes mes amies et de mes amis. Et je continuais à aller quand même en fac de cinéma. Un peu, par-ci, par-là. Mais c'est ce qui m'a fait un peu tenir la tête, je pense, sortir un peu la tête de l'eau. Et j'avais un camarade d'école, écoute, c'est exceptionnel, depuis qu'on est à la maternelle, on est dans la même classe, enfin on est dans les mêmes écoles tout le temps. Et ce mec-là était encore avec moi en Doug de cinéma, Aurelio, à Renjo, s'il m'entend. Et il était toujours un peu à côté de moi, quoi. Du coup, quand je revenais à la fac, j'avais quand même un peu ce pilier là, il le sait même pas, je pense, mais pour moi c'était important, je l'avais lui. C'était un peu de nouveau mon ouverture vers le monde extérieur un peu, et j'ai rencontré 2-3 copains, Robin, Colin, la fac, qui m'ont... au fur et à mesure, un peu sorti de ce truc-là, tu vois, sans le savoir eux-mêmes, mais moi, j'ai commencé à faire des soirs avec eux, à comprendre ce qui n'était pas normal, ce qui était normal dans une relation. Tu sais, on se cherche, on ne sait pas. Hein. La première version de notre relation est tellement bizarre, quoi.
Ouais. Il y a un petit indice à donner peut-être aux lectrices et lecteurs, peut-être un peu plus jeunes. C'est en général, quand vous vous mettez en couple et que vous finissez par vous éloigner de tous vos amis que vous aviez avant, il y a un indice, quoi.
Ouais. Moi, j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai chopé ces cernes de la mort que j'avais jamais eu avant, qui m'ont jamais plus quitté. Les gens étaient inquiets autour de moi, tu vois. Je voyais qu'ils étaient inquiets. C'était super dur. Il y avait beaucoup de violence aussi, tu vois. Il y a eu un peu de violence physique aussi, quand même.
Entre
vous. Ouais, entre femmes. Et entre femmes, c'est différent. Et c'est hyper important d'en parler parce que on minimise vachement ça. Parce qu'on est entre filles et c'est presque de la bagarre. Alors que c'est pas de la bagarre, en fait. C'est frapper quelqu'un, quoi. Il y a des trucs vraiment violents. Et en même temps, moi, j'ai toujours été quelqu'un avec, je pense, beaucoup d'empathie. Donc, je voyais aussi les problématiques que ma partenaire traversait à l'époque, tu vois. Et puis, je découvrais tout. Franchement, je découvrais tout. Une autre sexualité, une autre... Puis, tu sais, c'est un peu la première sexualité que j'ai découverte aussi. Parce que j'avais 17-18 ans. J'avais pas couché avec beaucoup de mecs, quoi, tu vois. J'ai dû avoir 1 ou 2 petits copains vite fait, quoi. Et donc, je découvrais tout. Je découvrais les femmes. Et ça m'a un peu traumatisée des femmes, moi.
Ah ouais.
Un peu. C'est-à-dire que après, j'ai fini ce Doug que j'ai eu en trichant sur Wikipédia à peu près toute l'année. Vraiment. Ouais, j'ai fini ce dug, j'ai bouffé du sucre. Tu sais, on était là en cours, dans des amphis, on avait des partiels, on pouvait regarder, on avait notre portable à côté, quoi. C'était ridicule, quoi. Okay. Donc c'était horrible. J'ai pas du tout été éveillée. J'ai bouffé du cinoche français, du romère, du truffaut, ça me faisait chier, mais j'ai un très mauvais souvenir, moi, du coup, du cinéma français, de la nouvelle vague et tout, alors que je pense aujourd'hui, je découvrirais des trucs qui me plairaient, mais j'ai un mauvais souvenir de ça. C'est associé à tout ça, quoi.
Oui, bien sûr.
Et.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
On se sépare. Elle me quitte, évidemment. Et là, je me dis, ok, je gère cette énorme tristesse. Et je me dis, putain, je suis pas mal, je gère bien ma tristesse. Parce que moi, je suis du genre, je chiale ma race, tu vois. Mais toujours, dès que j'ai besoin, et ça va. Et je sais vachement demander de l'aide aussi. J'apprends à demander de l'aide, à dire à ma mère, ça va pas du tout et tout. Donc ma mère, à cette époque-là, tu me dis si c'est chiant, je parle beaucoup,
c'est
mais
c'est pas
tu
du
me dis,
tout chiant, vas-y, raconte.
À cette époque-là, quand je me sépare de Déborah, ma mère est clown avec mon beau-père et elle fait des tournées en Allemagne, dans les écoles. Complètement what the fuck.
Quoi ?
Ouais. Et elle va dans un village qui s'appelle Fürth, qui est à côté de Nuremberg. Et elle me dit, bah, tu pars avec nous en tournée, puis tu fais la régie et on t'emmène avec nous, quoi. Parce que moi, j'étais en pleine rupture. Et on dormait chez des amis de mes parents, qui sont des gens géniaux, complètement fous, des artistes allemands incroyables qui vivent en communauté. Enfin, des gens, en tout cas, si t'as envie de pleurer, ils me répétaient ça à peu près 15 fois par jour. Et tu vois, en allemand, en espagnol, en anglais, ils me disaient tout le temps, si tu veux pleurer, tu pleures, tu vois. Et du coup, je pleurais partout. À chaque étape. Mais c'était génial parce que ils acceptaient ma tristesse, ils acceptaient qu'on n'avait pas toujours besoin d'en parler 1000 ans. J'ai vraiment vécu mon petit trajet là-bas, sur les routes de Nuremberg. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ça y est, ça va en fait, ça va aller, il va y avoir autre chose après pour moi. Parce que pour moi, c'était très dur d'imaginer que d'une vie sans elle, quoi. C'était très, très dur. Donc je me dis, cool, j'arrive vraiment à gérer ma tristesse, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, je vais partir à Paris. Me demande pas pourquoi. En gros, je me dis, je vais être jeune fille au pair. Donc, j'avais pas envie de partir à Paris. Je voulais refaire ce truc de voyage.
T'as quel âge, t'as 18, 19 ans.
Ouais, 19 ans, 20, okay. Presque 20 ans.
Okay.
Et je me dis, je vais partir faire jeune fille au pair. Et donc, je m'inscris sur un site de jeune fille au pair. Et les premiers gens qui me contactent sont une famille de gens parisiens. Donc, je m'y attends pas du tout. Mais qui, ceci dit, me propose quand même... Enfin, là, j'ai la panoplie de la famille parfaite, quoi. C'est-à-dire, ils ont des enfants sublimes, ils sont super, ils parlent ma langue. Donc, bon, c'est vrai que le côté, moi, je voulais apprendre une langue, c'était pas vraiment l'idéal, mais je m'en sortais déjà pas trop mal avec les langues. Et surtout, ils habitaient à Saint-Germain-des-Prés, au-dessus du Café de Flore. Et ils me proposaient 600 balles par mois, et ils me logeaient. Et ils me faisaient mes courses, tu vois. Donc, je me disais, bon, là, on est quand même sur un truc où... C'était loin des mecs qui t'appellent en Islande pour te payer 200 balles et tu vis avec eux, quoi. Tu vois, j'avais un appart. Et à l'époque, j'avais un cousin de Paris qui me dit « Mais tu te rends pas compte, ils vivent à Saint-Germain-des-Prés, au-dessus du Café de Flore, ça doit être des maxi friqués. Va là-bas, tu vas voir, à mon avis, ça va être cool pour toi, quoi. Tu vas pouvoir t'introduire à Paris, faire tes trucs et tout. » Et donc, je les rencontre. Ça se passe super bien, parce qu'en plus, elle, c'était une ancienne Alsacienne. Donc elle était trop ravie, elle, tu vois, ils étaient ravis d'avoir une jeune fille au pair qui parlait français, parce ouais. Que là leurs enfants ils commençaient à avoir besoin de justement de d'avoir ils avaient eu plein de jeunes filles au pair russes, françaises, ouais, machin, ils voulaient vraiment une française. Et ça s'est super bien, je me suis super bien entendue avec ces trois garçons que j'aime tellement encore aujourd'hui, qui s'appellent Hector, Elliot et Edgar.
Qui sont ados maintenant, alors
j'imagine. Mais non, qui sont même des hommes. Ah, c'est horrible. Il y a pas très longtemps, là, on se refait des repas une fois par mois. Moi, j'y vais pas souvent parce que, enfin, je vais pas très souvent. Mais la dernière fois que je suis retournée, incroyable, quoi, mec. Genre Elliot, le petit qui avait 8 ans quand je le voyais, c'est devenu un beau gosse musclé. J'étais presque gênée, tu sais, d'être la babysitter, un peu comme l'histoire de Sylvie et Angèle, tu vois. C'est-à-dire, j'étais la babysitter et je pense que dans 10 ans, ça pourra vraiment être un pote, quoi, tu vois. Et donc, voilà, je l'ai...
Dans Sylvie et Angèle, tu parles de
Angèle, la chanteuse, sa manageuse, qui était sa babysitter, ouais. C'est fou, tu vois. Parce que c'est des années, en fait, à l'époque, c'est des années, moi, je suis jeune fille au pair, allez, j'ai 19 ans, eux, ils ont, je sais pas, Elliot, il devait avoir 10 ans. Et en fait, bah oui. Maintenant, bah, quand il va avoir 20 ans, moi j'ai 30 ans, c'est pas pareil, tu vois, c'est tellement différent. Donc ils sont toujours aussi mignons, trop cool et tout. Et surtout, j'ai passé une année, alors jeune fille au père, bonne jeune fille au père, je pense pas que je l'ai été parce que j'étais vraiment une enfant, mais j'étais une grande sœur, quoi. Donc j'ai géré comme j'ai pu, tu vois.
Mais c'est ça qu'ils cherchaient, non, sans doute.
Ouais, mais bon, tu vois, je pense que je merdais un peu. J'avais pas le... C'était quand même des enfants qui étaient ultra suivis. C'était des parents, c'était des polytechniciens, tu vois. C'était des enfants, c'était la crème, quoi. Je veux dire, Hector, il faisait ses devoirs avec un mec de Sciences Po, tu vois. Donc moi, si tu veux, j'ai jamais rien capté à la division, aux dividendes, aux quotients, au reste, là. Donc je pense que parfois, ils étaient pas hyper ravis de voir que je faisais un peu... Ouais, je traînais beaucoup sur mon portable, je jouais beaucoup avec eux parce que j'adorais ça, mais en termes d'éducation, j'étais pas... C'est difficile en même temps, c'était beaucoup, fait que je cherche tous les jours à l'école à 16h. Enfin, j'étais pas prête, quoi. C'était vraiment un truc... Mes super souvenirs. On a fait comme on a pu, mais c'était super. Et donc de là, à Paris, moi j'avais fait un petit peu de voix off à Mulhouse en tant que... Pour rendre service à une pote qui était à Strasbourg, pardon, qui bossait chez Arte. Et donc, on m'avait plutôt dit, t'as des prédispositions aux voix off, c'est plutôt pas mal, quoi. Et quand j'ai commencé mon année de jeune fille au pair, au milieu de l'année, j'ai eu envie de trouver un projet à côté quand j'avais du temps. Et il y avait cette école de doublage à l'époque qui proposait une formation sur un an, tu vois, de doublage. Ce que j'ai fait, donc. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes hyper importantes dans ma vie, comme Cédric, qui est mon co-auteur et mon meilleur pote, vraiment, que je n'ai plus jamais lâché depuis, quoi.
Cédric, qu'on voit beaucoup sur ton...
Qu'on voit partout, il est tout le temps là. D'ailleurs, il est là. Cédric, s'il te plaît, sors. Non, mais oui, non, mais c'est Cédric qui est ma vraie âme-sœur, tu vois. On s'est déjà dit, on fera un enfant ensemble si on n'a personne, si on n'a pas de géniteur.
Ah, vous êtes... ce genre de pacte.
Ouais, ce genre de pacte un peu foireux. T'sais. Non, non, Cédric qui est vraiment une pièce maîtresse de moi, dans ma création, dans tout, quoi. Donc, c'était une super école. C'était super marrant.
Bon, c'est intéressant, en fait, parce que... J'ai la sensation que... Comment t'en es venu à faire des voix-off à Mulhouse? Enfin, à Strasbourg, c'est ça?
À Strasbourg, parce que dans une soirée, je m'amusais beaucoup à imiter les voix-off d'Arte. Et ma pote me dit, mais attends, mais tu sais qu'elle m'a planté. Et moi, j'ai un docu à faire. Est-ce que ça te dit de me l'enregistrer? Et donc, j'avais fait un essai qui m'avait emmené... j'avais rencontré à l'époque un grand monsieur qui s'appelait Karl Wege, qui était un Allemand comme ça, très strict, mais très bienveillant, qui m'avait dit, il y a du boulot, mais t'as quelque chose, quoi. On continue. Et Arte, à l'époque, il commençait un peu... Moi, je trouve qu'ils ne l'ont toujours pas fait, mais ils commençaient un peu à avoir envie de renouveler leur voix. Même si tu le connais, le Arte, tu vois. C'est vraiment, waouh. Ils ne l'ont toujours pas trop fait, mais du coup, j'avais un peu ce truc-là de « Ah ouais, c'est marrant, ça liait un peu aussi le jeu, et puis les imitations, tu vois. » C'était vachement de la reproduction auditive et tout. Et donc, dans cette école de doublage, qui était quand même assez... tu sais, c'est un peu... En fait, les écoles de doublage, ça a été très mal vu par le monde du doublage, parce que pour les gens qui faisaient du doublage, il n'y a pas de comédiens doublage, il n'y a que des comédiens. Donc c'était dur pour eux de se dire, genre, il y a des formations pour devenir comédien de doublage. Non, tu fais les cours Florent, tu fais les cours Périmonie, mais tu ne fais pas une école de doublage. Donc moi, je n'ai jamais dit que je venais de là-bas. D'ailleurs, il ne fallait pas trop le dire. Mais n'empêche que c'est grâce aux heures et aux heures d'entraînement à la barre, ce qu'on appelle à la barre de doublage, que j'ai réussi à toquer aux bons endroits pour dire, voilà, j'aimerais faire du doublage et à passer des essais et avoir des mini-rôles dans les ambiances, dans des séries, des petits récurrents, voilà. Je suis jamais allée très très loin dans le doublage, pour la bonne et simple raison que c'est quand même un milieu infesté de MeToo, vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est un milieu très très difficile à ce niveau-là, vraiment. Je le dis souvent et j'oserais jamais en parler, j'ose pas trop en parler encore aujourd'hui, mais je trouve que c'est ce qui m'a sclérosé, moi, vachement.
Ok.
Le rapport toujours avec le directeur artistique et les comédiennes, je trouve ça vraiment dur en doublage, quoi.
Ok.
Donc j'en ai fait, mais j'étais pas, je suis pas allée trop trop loin, quoi.
Ok, donc c'est marrant parce que tu viens au doublage par l'imitation.
Ouais.
C'est ça qui est drôle.
Ouais.
Toujours.
Ouais. Toujours par l'imitation. Et après, je me rends compte que c'est plus de l'observation que l'imitation. Et du coup, je me rends compte de ça à l'école parce qu'en fait. Je fais cette école de doublage et après, je me rends bien compte que ce que je veux, c'est jouer. Et donc, je m'inscris dans une école avec Cédric qui s'appelle l'école Blanche Salan, qui est une école dans le 20e, qui est à côté de chez toi. Putain, je dis totalement où t'habites. au 85 rue de Ménilmontant, code à 6039. Non, deuxième étage. Non, c'est une école qui reprend... Enfin, je ne sais pas trop ce que je foutais à l'époque, mais ma mère me dit ça a l'air pas mal. C'était un truc qui reprenait tous les travaux de Stanislavski, c'est-à-dire l'acteur studio. Vraiment, c'était une école qui disait, voilà, on va... La première année, c'est que des impros qui ne sont pas parlés. On va beaucoup travailler le corps, la voix, tout ça. Ça m'intéresse vachement. Je m'inscris, on s'inscrit. Super. Ça se passe très bien. Là, c'est des années d'école géniales parce que bah, tu es encore en cours, tu te remets dans un truc, tu sais... J'ai toujours l'impression que nous, on est allé en classe trop tôt et qu'en fait, quand on vieillit, on kifferait trop maintenant retourner bien en sûr. Classe, tu vois. Genre, moi, j'aimerais trop qu'on aille en classe ensemble. Parce que tu sais, on en ferait vraiment un truc, ce serait vraiment ouais, ouais. bien. Donc, les écoles de doublage, enfin, donc les écoles de théâtre, quand t'as 20 ans, 21 ans, tu sais, c'est vraiment cool, quoi. Et là, ça suit des années géniales où j'ai des profs, mais je peux même pas les imiter tellement c'est des caricatures et en même temps, c'est des génies. Enfin, j'ai un prof qui s'appelait Jérôme Mella, que Cédric imite à la perfection. Il y a toujours un mec qui parle comme ça, ouais, tu vois, il est toujours, ouais, Laurent, on ouvre des mondes, dès que tu fais un truc, ouais, regarde. Et c'est génial, il est génial, vraiment. Et donc, on apprend beaucoup et rien en même temps. Parce que tu vois, tant que tu joues pas, tant que t'es pas sur un set, tant que t'es pas sur une scène, franchement, c'est dur. Mais on apprend beaucoup, moi, je trouve qu'on apprend vachement la patience, quoi. De regarder les autres, de les écouter, et je trouve que c'est vraiment la plus grande des qualités quand t'es comédien, c'est vraiment l'écoute de l'autre. Et vraiment la patience et la détente aussi, ce qui est hyper important quand t'es comédien, vraiment toute cette phase avant où tu te rends disponible, tu rends ton corps disponible, ton esprit disponible. Donc c'est des années de travail là-dessus, quoi. Et des impros, etc. Vraiment, 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 c'était hyper intéressant. Et à partir de là, je commence quand même à me dire, bon, qu'est-ce qu'on va foutre de cette vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Et il s'avère que, en fait, je me suis pas posé de questions parce que pour moi, tout s'est toujours enchaîné, quoi. Et je suis hyper reconnaissante de ça, mais j'ai comme l'impression que c'est vraiment mon destin. C'est bizarre, hein. J'ai toujours eu l'impression que c'était mon destin.
Parce que tu veux dire que tu rencontres les bonnes personnes?
Bah tu vois, je rencontre Anna. Avec Anna, on fait une sorte de truc sur un court-métrage qui marche, qui gagne un concours avec Lisa Azuelos, qui elle-même est réalisatrice.
Alors c'est Anna Apter.
Anna Apter, ouais, voilà. Anna Apter.
Non, je remets un peu de contexte, hein.
Par ailleurs a été mon binôme pendant longtemps. Oui. Mais un binôme pareil, tu vois, on s'est presque pas choisi parce qu'on a fait ce truc-là une après-midi, on a gagné le concours... Moi, mon binôme, ça a toujours été un peu Cédric, tu vois. J'aurais jamais imaginé traverser une aventure avec Anna, par exemple. Et qui nous a beaucoup appris, tu vois. Surtout qu'on pouvait pas bosser ensemble. Et qui nous a beaucoup...
C'est vrai.
On s'adore, mais franchement, on a été libérés l'une de l'autre à un moment parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes manières de travailler. Mais on a traversé ça ensemble et on s'est rendu service, tu vois. On est allé chez Golden Moustache ensemble. Et tu vois, tout ça, c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Vraiment...
Comment tu rentres chez Golden, en fait?
Tu vois, Golden, c'est... On gagne ce concours, ouais. Nogynophobie, qui attire un peu l'attention d'un DA de chez Golden, Benjamin, un mec qui s'appelle Benjamin, et qui nous... Voilà, on le voit, on déj avec lui, il nous propose ça, on se dit, allez, nous, ça nous dit bien. Donc, on commence à faire partie un peu des rayons d'écriture, dans un Golden en transition, qui allait déménager et tout, donc ouais. Qui avait vu déjà McFay et Carlito, l'année où McFay et Carlito se sont barrés, en ouais. fait. Nous, on est arrivé à ce moment-là. Ce qui était un peu la descente hein, de Golden, en vrai. C'est pas la descente, mais Golden, ils ont toujours eu un gros souci à garder les talents avec lesquels ils bossaient. Vraiment.
Je pense que c'est dur. Tu vois, mais
c'est
tout...
hyper dur, mais du coup, quand on est arrivé, c'était un moment où il y avait eu beaucoup de migration. Quoi. C'est-à-dire, McFay et Carito étaient partis, il n'y avait plus de Tyrell, on était sous l'ombre de Tyrell, on se disait, mon Dieu, où est Vincent? Il est tellement Tyrell, drôle, ouais. qu'est-ce qui devient Vincent Tyrell? Adrien Méniel, Florent Bernard, qui sont des auteurs formidables, géniaux, qui sont partis de là-bas, tu vois. Et du coup, on est arrivé dans ce contexte-là avec un nouveau crew, c'est-à-dire Freddy Gladieux, Anis, Rally, Aurélien Prévost, moi, Anna, Gloire, plein de gens qu'on a fait, Éloi, Fabien, enfin, on s'est retrouvés d'un coup dans des réunions d'écriture, on était tous ensemble motivés à faire des trucs, quoi. Donc ça, c'était vraiment génial. C'était un espace qui était génial. Et après... C'était un peu long parce que tu vois, on cherchait tous, quoi. En fait, ouais. C'était laboratoire, donc ouais. T'es pas du tout aux périodes de ta vie où tu sais exactement ce que tu veux. Chacun traverse un peu sa carrière, tu sais pas comment ça va, tu vois pas vraiment vers où tu vas, quoi. Mais tu te marres bien. Et en même temps, tu passes ta vie dans des bureaux et t'es pas vraiment payé pour ça non plus. Donc, tu sais, c'est un peu angoissant, quoi. Tu sais pas vraiment où tu vas aller, quoi. Donc ça, c'était vraiment des belles années aussi, quand même, Golden.
Et vous avez lancé une chaîne avec Anna aussi?
Anna, on a lancé une chaîne qui s'appelait Anna et Laura, mais franchement, je pense qu'on a mis 4 vidéos dedans et on a mis...
Il y en a un peu plus quand même, mais...
Ouais, peut-être, t'as raison, ouais.
Je dirais 15-20.
Ah ouais?
Non. Je crois. Si, non.
Oh non, franchement, je pense qu'il y a 5 vidéos. Bah, regarde, on va vérifier. Mais je pense qu'il y a... Enfin, franchement, il doit y avoir... Je te jure, ça doit être rien. Mais vraiment rien, quoi. On a eu un très, très petit niveau de... Attends, je vais te dire ça.
Vous arriviez pas à en fait, vous n'arriviez pas à bosser ensemble, c'est ça que tu dis ?
En fait, on n'avait pas du tout les mêmes manières de fonctionner. Moi, j'avais vachement... On a 8 vidéos, mec.
Ah ouais, merde. Okay.
C'est dingue. Et, 40, et presque 40K d'abonnés, pour rien du tout.
C'était marrant, votre truc.
En fait, ce que j'adorais, c'est qu'en fait, Anna et moi, on était hyper complémentaires sur des trucs. C'est qu'elle était... Elle chiadait tout, elle est hyper consciencieuse. C'est une artiste, elle dessine comme je ne connais personne. Enfin, c'était un don de la nature pour ça, Anna. Elle a un vrai don pour l'observation. Enfin, moi, je me rappelle avoir découvert qu'elle dessinait notre prof de théâtre en faisant 3 lignes. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable. Elle était au dessin, ce que j'étais un peu à l'imitation, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, elle observait. Je trouvais ça fou. Mais elle était en total déni de ça, parce qu'elle a fait une école qui s'appelle l'école Boulle, elle est sortie majeure de sa promo, c'était quand même une vraie... Et Anna, avant de faire Golden, elle a bossé pendant un an où elle était, ça allait très bien pour elle, quoi. C'est-à-dire c'était une DA qui était géniale, qui était appelée de partout, qui sortait de son école et tout. Elle avait un bureau vers Saint-Paul et tout. Enfin, tu vois, c'était une famille qui a beaucoup d'ambition, elle a vraiment réussi et tout. Et puis elle a dit, je veux pas faire ça, je veux être comédienne. Waouh, tu vois, du coup... Rejet total du dessin, rejet... Et donc, là, elle s'est vraiment trouvée aujourd'hui, tu vois. Elle fait un programme court qui s'appelle Cher Journal.
Sur Canal+.
Sur Canal+, ouais. Tous les dimanches. Et là, je la reconnais vraiment. C'est, je vois qu'elle lit tout ce qu'elle aime, tu vois. La problématique qu'on a toutes les deux, c'est qu'on est deux extrêmes totalement opposés. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup confiance à l'instinct. Et je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont géniales, qui sortent de ça, de l'impro, de l'instinct. Et elle est totalement dans l'inverse. Donc, ça donne des tournages, ma foi, très compliqués. Parce qu'on est sur quelqu'un qui, à la fois... Moi, il y avait un truc aussi que j'avais vachement accepté, c'était de me voir. Moi, j'ai toujours compris que c'est bon. Là, j'étais dans la sphère publique, on m'avait vue et que, OK, j'avais du mal avec ce que je renvoyais physiquement parce que on se voit jamais comme on se regarde. Elle, pas du tout. Elle était toujours vachement en contrôle. Donc, on se tirait pas vers le haut à un moment donné, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était hyper angoissée de se voir. Moi, du coup, ça me rendait angoissée de me voir. Du coup, on était plus... On traversait des problématiques très différentes dans nos vies. Moi, je savais ce que je voulais, elle aussi, mais c'était très différent. Elle était moins dans la vanne pure. Elle avait plus envie de chiader les choses. Et moi, chiader, je trouvais ça cool, mais je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était, tu vois, on se prenait trop la tête pour des trucs qui n'en valaient pas la peine. Et du coup, c'est vrai qu'on a fini par faire très peu de choses, au final, pour le temps qu'on a passé ensemble. Parce que toujours ces problématiques de... Il fallait que ce soit parfait. Et moi, je disais que c'était pas très grave si c'était pas parfait. Et en même temps, je sentais, tu vois. Donc, il y a un moment où on s'est dit stop. Et en 2 mois, j'étais chez Quotidien. Tu vois, donc c'était quand même...
Ah ouais.
Ouais. On s'est dit stop au mois de... allez, je vais te dire au mois de mars-avril. Et en mars-avril et en fin mai, début juin, je passais mon essai chez Quotidien. Voilà. En un mois, moi, ça m'a déclenché, quoi. Je me suis dit, OK, bon, bah, t'es solo. Ça a été plus dur pour elle. Ça a été dur d'ailleurs. Aujourd'hui, on s'accorde vachement parce qu'on a toutes les deux des projets, mais c'est dur quand il y en a une qui en a et d'autres pas trop, quoi, au début. Mais on n'était pas au même stade du chemin, tu vois, ouais, je pense, sûr. Vraiment. Mmh. Et moi, c'était un peu naturel et j'ai pas voulu m'excuser de ça parce que c'était j'ai bossé pour ça. C'est-à-dire, j'ai dit, je vais faire un pilote. Un pilote que j'avais appelé la minute citoyenne un peu moyenne et c'était que des gens qui savaient pas trop de quoi ils parlaient. Et je trouvais que ça marchait vraiment bien parce que ça me rendait ouf, moi, tu sais, d'aller sur Facebook et de voir que tout le monde écrivait des lettres à France. Oui. Tout le monde se plaint toujours d'un truc et en fait, on ne sait pas trop, quoi. On a vu une vidéo brute et on ne sait pas trop ce qui se passe, tu vois. Et du coup, ça me faisait rire que ce soit des gens qui parlent de sujets hyper graves mais qui disent vraiment des trucs bof, ce qu'on fait quand même souvent. Et donc, j'avais fait la mini-citoyenne un peu moyenne et j'avais proposé Vanessa Poteau, qui était un des personnages qui parlait de l'avortement. Non, de l'euthanasie avec Vincent... Lambert, qui à l'époque n'était pas encore mort. Et un truc sur l'euthanasie avec la mère de famille un peu cassos qui disait. Qui parlait de. Non, de l'avortement, pardon. Qui parlait de l'avortement, machin. Qui était elle-même un peu sur le fil du rasoir, quoi, tu vois. Qui avait 8 gosses, mais qui n'avait plus rien à foutre. Enfin bon. Et c'est un truc que j'ai tourné dans les locaux de Golden Moustache. Avec du matos super et 2-3 potes. Garance au cadre et Jérémy au son avec Cédric derrière qui notait tout en script. Anna qui m'a monté le programme quand même, qui m'a fait un petit jingle et tout, tu vois. Et j'ai trouvé une agent à ce moment-là et envoyé à toute la liste et je ne peux pas t'expliquer, ça paraît très prétentieux, mais je savais qu'on ferait quelque chose avec ça. Je savais que quelqu'un se dirait « Ok, il se passera un truc ». Et j'étais sûre que je serais bien chez Quotidien. Parce que je les sentais, tu vois. J'ai un truc vraiment de... Quand je les ai vus, quand je les ai rencontrés, parce que du coup, elle envoie ce truc-là et vraiment, deux jours après...
Casting.
Ouais. Et en plus, Laurent Bon, qui est le producteur de l'émission avec Yann, qui est un génie que je rencontre, que je désacralise totalement, parce que moi, je ne connais pas trop qui il est, en fait, et j'aime bien ne pas savoir qui il est, parce que sinon, je pense que je me serais vraiment chié dessus.
C'était une bonne idée.
Je suis arrivée dans cette espèce d'énorme bureau en face de la Tour Eiffel, avec en même temps beaucoup de modestie partout, tu vois, c'était pas un truc trop impressionnant, c'était génial, et on a passé une heure à discuter. Et à la fin de cette heure-là, il a fait le pire truc qu'il puisse me faire et en même temps le meilleur truc. Il m'a dit « Ok, bah écoute, on fait un pilote, tu testes jeudi, tu fais ce que tu veux, on verra. » Et j'ai dit « Mais non, en fait. » Il me dit juste « Garde en tête que l'invité, c'est Depardieu. » Et j'ai dit « Bah non, en fait. » J'ai dit « Alors, on va pas faire ça parce que moi, j'ai besoin de savoir ce qu'on va faire. » En fait, il m'a dit vraiment au bout d'une heure « Je te fais confiance, en fait. Et je suis sûre que tu vas faire un truc que je vais kiffer. »
C'est génial.
C'est génial.
Et en même temps...
hyper paniquant. Mais en même temps, du coup, on a un peu... Je lui ai quand même dit, alors moi, j'ai besoin quand même qu'on redéfinisse un peu les choses. Donc, faisons ce personnage. Il se trouve que Gérard Depardieu a annulé le dernier moment et que je l'ai fait devant Zaya. Enfin, je ne l'ai pas fait devant Zaya, le pilote, parce qu'elle n'était même pas... Elle n'est pas restée sur le plateau. Mais je l'ai fait devant Yann et tout. Et j'ai plongé dans un univers... Pour moi, c'était un jeu génial. J'étais en télé, j'avais l'impression d'être dans un film, tu vois. Genre, la régie, les trucs, et c'est et il m'a fait une confiance absolue pendant toute l'année où j'y étais, quoi. Mais vraiment, tout le monde. C'était génial. Et c'est de la télé, quand même.
Ben oui.
J'aurais vraiment pensé être plus contrôlée que ça. Et quand ça a roulé, c'était bon, quoi. Je faisais ce que je voulais. Je faisais vraiment ce que je voulais.
C'est suffisamment rare pour le dire. Enfin, pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu de la télé, c'est assez rare.
Après, je n'ai pas rongé mon frein. Moi, je suis une bosseuse. Donc, je pense qu'ils ont vu... que je bossais.
Oui, mais qu'ils pouvaient te faire confiance.
Ils pouvaient me faire confiance. Et puis, tu sais, j'ai vite pris des bides et je me suis pas... Et quand tu prends un bide et que le producteur sort en se disant que c'est de sa faute parce qu'il aurait pas dû te mettre sur ce plateau qui était glacial, c'est que t'as gagné. Parce que c'est pas toi qui as bidé. C'est le contexte, en gros. Il y a vraiment des contextes. Il y a vraiment des invités, il y a vraiment des sujets sur les... Je peux te dire que quand tu rentres après un mec qui présente un film sur le suicide paysan et une meuf qui revient de l'Himalaya et qui a perdu son mari et qui est amputée d'une jambe, le sketch derrière, il passe middle, tu vois. Donc, quand tu sors d'un truc comme ça et que il sait qu'il peut te faire confiance en direct sur un truc qui est bancal, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial.
Et donc là-bas, tu bosses tes persos ?
Ouais.
Mais plein de persos. T'as combien de persos ? Je sais pas.
J'en ai pas tant que ça, mais en fait, il y avait des persos qui naissaient de l'événement d'actualité que j'ai pas refait. Tu vois, j'ai fait une bonne sœur qui est jamais revenue, mais qui était là pour la PMA. J'ai des sortes de marronniers de persos que je refais. Oui, donc la médecin docteur Kinker qui est un classique que j'adore puisqu'elle est toujours, elle s'en fout plein les poches et
médecin arnaque.
Médecin traitant, tu sais qui en fout, qui est toujours dans le lobby pharmaceutique, donc elle, je l'adorais. Et puis elle pouvait venir pour toutes les problématiques sanitaires. Il y en a eu quelques-unes quand même des problématiques sanitaires l'année. J'ai fait Vanessa Poteau qui était un peu la racaille, mais que j'ai réussi aussi à trouver un peu mieux en bossant, qui au début était un peu tête à claque et puis qui est devenue vite on est un peu attendri parce qu'elle dit beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, tu vois, où elle a pas été élevée comme ça. J'ai des persos un peu techniques, genre Leroy Merlin, prof de sport, des trucs comme ça. C'est un peu dur pour moi d'en définir un seul parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu similaires, tu vois.
Ils vivent dans ta tête, ces persos ?
Ouais, mais en fait, tu vois, là, l'autre jour, Cédric, il me filmait pendant que j'étais en train de téléphoner à ma grand-mère. Et ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, en fait, je suis vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment, genre, par exemple, le perso de l'Alsacienne, un peu, par comme ça, qui est très brute et tout, c'est vraiment moi, quoi.
Et ça, c'est pas... c'est un rôle de composition un peu suicide pour le coup, parce que je pense qu'il vient de loin.
Oui, il vient de très loin.
Il vient de ton enfance.
Mais quand
quoi.
Même, je pense qu'en fait... En fait, je pense que c'est parce que... Bah, c'est l'Est.
Ouais.
Tu vois ? Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que... Bah, parce qu'en fait, quand tu es au lycée, dans un petit lycée, et que tu traînes avec des gens qui sont hyper différents... En fait, Mulhouse, c'est une ville frontalière entre la Suisse, l'Allemagne, la France. Et donc, t'as à la fois des gens qui sont des frontaliers qui bossent en Suisse, qui se font des milliers par mois, qui habitent dans le haut de Mulhouse, qui ont des baraques de malades mentaux, qui ont une vie de vrais riches. Et t'as des gens très pauvres, qui viennent de milieux très défavorisés, parce que Mulhouse est une ancienne ville où il y a d'usines où tout a fermé, où vraiment il y a eu une vraie déchéance, tu vois, à un moment donné. Il y a vraiment des gros cas sociaux à Mulhouse. Hein. C'est vraiment, voilà. C'est un melting pot qui fait que tu te retrouves au lycée avec tellement de personnalités qu'en fait, t'en rencontres des Vanessa Poteau. T'en rencontres des Madame Barat, tu vois, ma sœur, l'assistante sociale. Je peux te dire que la mère de famille que je fais avec trois dents cassos, on la connaît à Mulhouse, tu vois. T'en rencontres des. Enfin, tu rencontres tout le monde et du coup, tu t'adaptes et du coup, bah, forcément, ça te nourrit, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours eu des groupes de potes hyper différents, de milieux très différents. Donc, je pense que c'est ça qui fait que tu peux faire plusieurs persos et qui t'habitent un peu, quoi, tu vois. Par exemple, il y a des persos que j'ai du mal à faire, c'est. J'aime bien faire les riches, mais un peu racistes, genre comme mes grands-parents. Mais tu vois, par exemple, les gens de la haute, de la très haute, qui sont nés vraiment dans la... avec des titres, je ne connais pas. J'ai beaucoup de mal à faire ça. J'aurais l'impression qu'il faudrait que je fasse ça, et tu vois, ce ne serait pas juste, quoi. Donc, il y a quand même des trucs que je ne sais pas faire. Hein. Enfin, évidemment, je pense que tout le monde le sait, mais je dis ça comme si c'était... Il y a quand même des trucs... Mais il y a des persos.
Mais t'as besoin de les observer. Si tu
faut
les
nourrir, ouais,
si
voilà.
Tu les connais
si je
pas,
faire ça,
c'est
faudrait
plus
les nourrir.
Quoi.
Ouais, ouais, à fond. Ouais.
Faut que tu rencontres, bah, poste peut-être une annonce sur Insta.
Ouais. Je cherche un
aristo.
C'est clair.
Tu serais peut-être.
Mais j'ai une copine comme ça qui est ultra friquée et qui parfois dans sa phrase dit juste, mais tu sais, avec maman. Et tu sais, les gens qui disent ça, c'est vraiment des friqués, sa mère, quoi. Tu sais, avec père, l'autre jour, on était en train de discuter, je me disais que était là, what? Vraiment, ouais. Mais c'est pas assez pour que je puisse m'en inspirer, vraiment. Mais c'est fou, ouais.
Et en fait, je te dis ça parce que j'ai vraiment l'impression... Enfin, je te demandais si ces persos, ils habitaient en toi, parce que j'ai vraiment l'impression que t'as un tel sens de l'observation que, en fait, t'as même plus besoin d'écrire. Ils sont là.
Ça, c'est l'objectif de fin, ouais. C'est ça.
Ouais.
En fait, c'est que je me rends compte que... Déjà, j'écris pas. Moi, j'écris jamais, par exemple, mes vidéos.
Mais ça, c'est ouf déjà. Parce ouais. que ça veut dire que tu les tiens.
Bah, je les parle beaucoup.
Moi,
je
oui, suis... c'est ça.
Ouais, je les parle beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'essais avant, hein, mais c'est ouais. juste que je parle et je retiens en parlant, moi. Ce qui arrange pas à plein de gens, parce que je parle beaucoup. Du coup. Là, ça vous avez du contenu. Hein. Mais je parle beaucoup et je retiens beaucoup. Du coup, j'ai pas besoin d'écrire, ce qui est difficile quand, par exemple, t'es en train d'écrire un spectacle comme ce que je suis en train de faire. Parce que parfois, tu vois, il y a des scènes que j'arrive pas à écrire parce que j'ai besoin de les jouer. Alors Cédric, il me dit, bah vas-y, tu te mets sur le cul de la commode, tu fais genre le prof de musique, on te fout un appareil à CD, on va voir. Et en fait, lui, il enregistre. Et après, il retape tout. Tu vois, et c'est ça. Comme, ouais, c'est clair, c'est ça. C'est comme ça qu'on a... Ouais, il scribe. On a fait ça pour un sketch qu'on a envie de faire sur les vendeurs et les vendeuses. Et j'ai vraiment dû me lever, partir, expliquer, faire le roi Merlin, après Sephora, machin et tout. Et il a tout noté, quoi. Et il a enregistré, il a tout renoté. Et je crois que c'est vraiment comme ça que j'arrive.
Donc tu sors les vannes en direct?
Ouais, en fait, en travaillant, quoi. Après, tu vois, les vannes dans les persos, c'est quand même souvent les persos. Je suis moins une punchlineuse, par exemple, ouais. quand même, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ça se voit, c'est très écrit. Moi, j'ai des collègues comme, par exemple... Anaïde, elle construit très différemment ouais. ses choses, mais pareil, elle est vachement aussi
Anaïde
dans
Rosam,
le...
donc qui est...
Anaïde Rosam, ouais. ouais, elle est vachement aussi un peu dans l'instinctif, mais elle fait tout le temps, elle filme tout le temps, caméra, enfin, elle fait tout le temps champ contre champ, donc elle se prend la tête parfois pendant des heures, mais pour une vidéo que vous voyez qui dure 30 secondes, mais elle s'applique beaucoup. Les caractères, Lison Daniel, qui elle écrit au mot près, donc elle sait quand elle fait sa chute, elle sait quand elle fait sa blague, et elle peut te faire 6 personnages en l'après-midi, du coup, c'est très différent la manière qu'on a travaillé.
Et toi, t'es dans l'intuitif.
À fond. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? On le verra.
Ouais, c'est une autre façon de travailler, mais peut-être
ouais,
que,
c'est une autre façon
peut-être
de travailler.
Qu'en vieillissant et en grandissant, t'arriveras à mixer un peu des deux, quoi, tu vois.
Je pense. J'apprends, en tout cas. Mmh. Tu vois, là, il y a quand même des parties du spectacle que j'ai beaucoup écrites, parce que j'ai pas envie que ce soit que des persos, donc il y a quand même beaucoup de liens plus stand-up, plus... Mais tu vois, moi, j'ai vachement besoin d'imaginer aussi la globalité des choses. Là, j'écris un spectacle, je me rends compte, par exemple, dans mon processus de création, que je me vois pas du tout le tester dans des cafés-théâtres sur 7 minutes, ce passage. Moi, je vois une pièce de théâtre.
Un truc
je
global.
Je vois un truc. Mmh. Et je sais pas encore comment je vais le lier, mais je vois un truc, quoi.
Parce que si vous savez pas, pour les gens qui écoutent, ouais. en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu ouais. testes, tu rôdes tes,
bah, c'est très à
tes
la mode.
Spectacles par passage.
Mais en fait, pas tant que ça. Parce ah ouais. que Forestier, elle a jamais fait ça. Alex Lutz, il a jamais fait ça. Et on a l'impression, comme aujourd'hui c'est Foresti Alex Lutz, que c'est parce que c'est Foresti Alex Lutz. Mais il y a 10 ans, Foresti, il y a 20 ans, Foresti, elle était pas, je dis pas comme moi du tout pour me comparer, mais c'est-à-dire elle, c'était une nana qui était dans une ouais. troupe de théâtre et qui a pas passé 10 ans dans des cafés théâtres, tu vois, qui a écrit un spectacle qu'elle a joué, elle a été chez Ruki en même temps, donc je pense que c'est un truc aussi un peu très à la mode là, tu vois, moi je me vois pas du tout, enfin moi j'ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup des scènes ouvertes l'année il y a 2 ans, c'est pas du tout mon endroit, parce que il faut être très écrit, être très précis dans les blagues, il y a beaucoup, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de place pour les personnages, t'as presque l'impression d'être un peu vieillot, tu vois, quand tu fais ça, donc t'es pas hyper à l'aise. Et le stand-up, ouais, j'y arrive un peu, mais c'est pas mon truc, je suis pas très forte, quoi. Je pense que je fais pas la diff, quoi. Sur une scène de stand-up, on se dit pas, vraiment, il y a un truc, tu vois.
Ah, et tu crois que si t'arrives avec un perso, ça marche pas. Surtout que maintenant, on finit par un peu te connaître, si tu veux, donc on sait que t'es Laura Felpin et que tu fais des vannes, et que tu vas faire des persos, pardon.
En fait, ce qui me fait... Moi, tu vois, genre des mecs comme Louis C.K. qui arrivent en une voix à faire exister un personnage, pour moi, c'est ça, en fait, faire un perso. Okay. C'est-à-dire que là, dans mon spectacle, je ne m'imagine pas du tout me déguiser ou faire un noir, hop, apparaître dans un perso en lumière, tu vois. Je trouve que, en fait, c'est ça qui était intéressant aussi à tester, que j'ai un peu testé au Jamel au début, parce que vraiment, Jamel, ça a été un des premiers qui a vraiment cru en moi.
Ouais. Et, ouais, on a même pas parlé.
Ouais. Et pourtant, il a vraiment... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné toute la liberté que je voulais avoir aussi, tu vois. Et j'étais pas prête sur plein de points. Pareil pour Alex Lutz, il a toujours été hyper... Florence, Alex, je suis hyper bien entourée. C'est des, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les appeler quand ça va pas ou leur demander conseil. Et c'est génial pour c'est le travail. C'est incroyable pour le travail, tu vois, vraiment.
Ils ont 2-3 heures de route derrière eux.
Ils ont quelques kilomètres au compteur, ouais. Putain, donc ça fait plaisir. Et surtout, du coup, dans cette idée de travail, c'est voilà, il faut trouver sa forme, mais c'est pas facile. Moi, je suis en plein dedans, donc j'ai pas encore la solution, quoi.
Comment t'as réussi à t'entourer comme ça au fil des années, en venant de Mulhouse, justement? Tu sais, c'est d'un mec que je chéris beaucoup et qui m'a dit, j'avais eu deux trois invités qui avaient grandi à Paris, qui étaient nés à Paris, ouais. Tu vois, et qui m'avait dit, mais moi, j'arrive pas à me projeter. En fait, je viens pas de Paris. Et j'étais content parce que la semaine suivante, j'avais Hakim Djemili, tu sais.
Ah, c'est l'Est en force. J'adore Hakim, big up si tu m'entends, cousin.
Qui venait justement de l'Est aussi.
J'adore Hakim.
Et en fait, je pense qu'effectivement, c'est de l'extérieur comme ça. Quand tu regardes de en dehors de Paris, c'est un monde qui est impossible à pénétrer, en fait. Et je trouve que c'est cool.
Mais même moi, j'y crois pas. Hein. Ouais. Non, mais je te dis ça, je rigole, mais la première fois que j'ai bouffé avec Florence, j'ai mis une après-midi à me dire... Je vais chez Florence Foresti ce soir. Mais c'est quoi ce délire ? Florence, c'était ma vie d'ado. Enfin, je veux dire. Et en fait, il faut jamais voir ça comme un. Moi, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais j'ai aucun truc avec la fame. Ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais eu. Mes parents, ils sont ma mère, elle est intermittente, elle a toujours vécu OK, et c'est pas une star, tu vois. Donc en fait, pour moi, le fait de me dire que je pouvais vivre de ça, c'était déjà ouf, hein, c'était génial. Et le fait d'en vivre aujourd'hui, c'est génial. Et si j'arrive à toucher une intermittence à 1900 boules par mois, en fait, c'est génial. Enfin, vraiment, je ne vais pas me plaindre parce que je ne suis pas en tête d'affiche. Et en fait, c'est des ambitions qui viennent avec aussi quand tu es dans le métier de plus en plus. Mais moi, j'essaie vraiment de garder les pieds sur terre là-dessus. Et en fait, ces gens-là, Florence, elle est... Enfin, ça me fait la plus simple de la Terre. En fait, c'est vraiment pas une nana qui pinaille... Et c'était incroyable aussi pour moi, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens chez Quotidien que j'admirais et que j'admire plus trop. Et quand tu rencontres des gens du métier avec qui tu partages la même passion, et où vraiment, c'est de la rigolade, quoi. C'est la franche rigolade, ben, tu t'arranges pour que socialement, ils restent dans ton secteur, quoi. Et puis, je fabrique pas du tout, en fait. C'est-à-dire que, oui, Florence, que je me suis dit qu'un jour, je la rencontrerais.
Comment tu t'arranges ?
Ben, tu t'arranges dans le sens où tu chéris ces relations-là, quoi. Tu t'impliques, tu relances, tu restes discrète, parce que c'est aussi des gens qui sont très entourés. Tu sais pas de... Moi, Florence, quand elle m'a appelée pour faire les Césars, En fait, il y a des gens... Il faut faire confiance à ça. Il y a des gens que tu rencontres, et s'il y en a que tu rencontres pas, c'est que tu dois pas les rencontrer, quoi. Et très vite, de toute façon, tu te rends compte des gens que tu rencontres et que t'as pas très envie d'être dans le champ, en fait. Quoi. Mm-hmm. Mais je me suis jamais dit « je veux un jour rencontrer Florence Foresti ». C'est un rêve qui se réalise pour moi d'avoir fait les Césars avec Florence Foresti. Je peux, je vous le dis, mourir tranquille sur scène. Pour moi, c'était incroyable. Peu importe la cérémonie, peu importe ce qui s'est passé, quand les lumières se sont éteintes et qu'on a lancé le nom des gens qui étaient sélectionnés pour le son, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit quelque chose dans l'oreille. Et ça, c'est bon. Moi, je pars avec ça et je sais qu'on a vécu un moment de scène ensemble. Donc, c'était fou, mais fou, tu vois. Et donc, c'était fou. Donc, je peux pas dire que je m'y attendais à ça. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a un chemin pour arriver à ça. Je ne sais pas du tout. Vraiment pas.
Ouais, t'es... Ok.
Mais c'est la démerde un peu. Je pense que c'est un peu la démerde aussi, tu sais, c'est réussir à... C'est, ça a été facile pour moi parce que je pense que j'ai toujours su un peu où je voulais être. Et tu sais, c'est facile quand on sait, c'est plus facile de s'affirmer. Pour dire on sait, donc on n'a pas peur d'envoyer un pilote. Donc on n'a pas peur qu'il ne soit pas très bien fait parce qu'on se dit qu'on sait qu'on joue bien. Ou on sait qu'on... Je ne dis pas que je sais que je joue bien, en tout cas je sais que ma place, elle est sur scène. Quoi. Elle ouais. est, et je le sais, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné une petite scène pour, le, pour un film d'Inès Reg qui va sortir cette année. Et la scène que j'ai tournée...
C'était à Biarritz, non ?
C'était à Biarritz.
J'étais sur le tournage cet été-ci.
Oh, incroyable.
J'ai vu.
Mais Biarritz, où sont tous ces surfeurs qu'on m'a présentés ? Et je suis arrivée à la gare de Biarritz, j'ai dit, mais quelle est cette vie où j'ignorais que tous ces gens étaient beaux à Biarritz ?
Et puis ils surfent et ils sont...
Mais
ils
c'est
sont
dingue
bronzés, ils sont...
Ouais, bon, ça sent la chlamydia un peu à plein nez quand même. Ouais, ça... mais tu vois...
Protégez-vous, allez.
Mais vraiment, en tournant cette scène là-bas, c'était ma première expérience en cinéma et je me suis dit, ok... C'est bon, quoi. C'est ça.
Que tu veux
t'es
faire.
Là, t'es avec eux, t'aimes les techniciens, t'aimes les métiers du son, de l'image, t'aimes... J'adore me faire diriger, moi. J'adore quand je trouve que c'est génial quand quelqu'un a une vision que toi, tu peux... Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, le cœur du métier. C'est comme si t'es un coureur et que le mec, il te dit, faut que tu le fasses en moins de 10 secondes et t'y arrives, t'es tellement fier. Mais t'es pas fier parce que tu te trouves génial, t'es fier parce que t'es content de lui avoir fait plaisir et que même les ingestions, ils rigolent. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a une réaction en chaîne sur un film et tout. Qui est incroyable, quoi.
Ça me fait penser à rendre ton père fier, tiens.
Ouais, ouais.
Pour faire de l'athlé.
Ouais.
C'est intéressant.
Ça
vient de loin, parfois.
Mais c'est du sport. Hein. Franchement, c'est fondamentalement du sport, la comédie. Ouais. Quand tu sors d'une heure trente de spectacle, je pense que t'es vraiment...
Lessivé.
Lessivé, ouais. Mmh. Ouais, ouais.
T'as quitté, on disait juste, ouais. juste avant l'enregistrement que t'étais en pleine transition, un peu comme moi.
Ouais.
T'as quitté Quotidien en septembre.
Fin septembre, début octobre, ouais. J'ai pas quitté, j'ai ralenti. C'est-à-dire qu'on s'est dit, enfin moi je leur ai dit que c'était, il y avait pas de public hein, là. Donc moi je me suis battue pendant un mois sans public. À chercher des concepts qui pouvaient fonctionner sans public, parce que les personnages, c'était vraiment du théâtre sans public, c'était vraiment dur pour moi. Et je me suis bien battue, et je leur ai dit, voilà, moi je pense qu'il faut que je revienne de temps en temps pour faire un sketch cette année-là, mais on va dire c'est une année blanche, quoi. Genre, on se laisse un peu tranquille. Je m'entends très bien avec Yann, très bien avec Laurent, ça s'est très très bien passé. J'y retourne probablement là, en décembre, pour faire un sketch plus joué, plus écrit, machin.
Oui, parce que j'ai vu sur Internet qui disait « Est-ce qu'elle s'est fait virer ?» Enfin,
non, pas du tout. On n'a pas de rupture de contrat. Enfin, moi, je les aime tous, mais vraiment, je suis tellement reconnaissante et j'ai tellement d'amour pour la liberté qu'on m'a donnée là-bas. Et je sais que, tu vois, si le public revenait l'année prochaine, c'est quelque chose que je pourrais leur demander de revenir. Enfin, je sais qu'il y a plein de choses. Alors, peut-être que ça ne se fera pas, mais en tout cas... Revenir de temps en temps, faire partie de cette famille comme en fait partie Vincent ou Nora, par exemple, c'est quelque chose qui me fait vachement plaisir. Et donc, on a été tous hyper pros et hyper... Après, au-delà de ça, moi, j'ai vraiment des affinités avec Yann et Laurent qui sont des personnes exceptionnelles. C'était naturel. C'était une très grosse décision pour moi parce que ça voulait dire que d'un coup, je...
T'es en train de quitter un truc.
Je quittais un truc gros. Qui était monumental et qui, Quotidien, c'est une des plus belles émissions de télé. Et puis, je peux vous dire, en y étant dans les rédactions, c'est un lieu incroyable. C'est des journalistes qui donnent leur vie pour ce qu'ils vous donnent comme information. Je veux dire, vraiment, il faut se rendre compte qu'ils sont là à 8h et qu'ils repartent à 22h tous les jours. Et peu importe, la ligne édito qui est souvent critiquée, c'est vraiment des journalistes, c'est vraiment des... Et moi, je me sentais pas trop à ma place en tant que créatrice au bout d'un moment. Là, en tout cas, je sentais que ça me rendait pas heureuse. Et c'est magnifique quand quelqu'un qui dirige, comme Laurent ou Yann, une chaîne et qui te dit si ça te rend pas heureuse, alors c'est pas bien. Bah, c'est génial, je peux te citer 20 autres mecs qui auraient dit non, non, jusqu'à la fin de l'année, tu restes tout le temps, quoi. Et on va te payer plus, et on va faire plus, et c'est pas du tout, voilà, ça n'a pas du tout été ça. Donc, c'était à la fois un grand soulagement de moins être là, en quotidienne en tout cas, et à la fois, c'est vraiment un soulagement, et à la fois, ça n'a pas du tout été une souffrance, parce que je sais qu'on est vraiment en bon terme, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment rassurant.
Et donc, t'écris un spectacle.
Et donc, je me suis dit, voilà, moi, j'étais produit par TS Prod, Thierry Suc Productions, qui est une boîte de prod qui produit Jean-Michel Robin, Florence Foresti, tout ça. Grâce à Florence, on peut dire ça.
Okay.
Qui parlait de moi bien avant qu'on se rencontre, donc c'était génial. Oui, elle dit que c'est pas elle, mais c'est vraiment grâce à elle. Et en fait, on m'a proposé d'écrire un spectacle. Et j'ai dit ok. Et donc, j'ai mis un peu de temps à arriver à l'idée. Je leur avais dit, écoutez-moi, d'accord, mais je vais faire d'abord un an de quotidien. Et en fait, ça s'est arrêté plus tôt, donc je leur ai dit, bon bah ok, signons ce contrat et faisons ça. Et ils sont hyper contents. Évidemment, c'est pas dans les meilleurs... Oui et non, parce que j'écris pendant le Covid, donc tant mieux, je suis en phase d'écriture, j'ai pas besoin d'être sur scène, mais l'idée, ce serait de jouer à partir de début septembre à Paris. Donc de pouvoir quand même tourner un peu avant la rentrée parisienne. Ça, je ne sais pas comment.
Pas sûr qu'on y soit.
J'espère, on verra. Là, j'ai déjà quand même un bon truc. Maintenant, on va voir avec la mise en scène, les gens qui vont participer au spectacle. Et puis après, on va essayer de mettre le plus de petites dates possibles pour qu'à Paris, je puisse faire une rentrée. On verra où, mais j'ai déjà des belles perspectives. Donc, je suis super contente, quoi.
Oui, j'imagine que chez Thierry Suc, ils vont pas te...
Ils vont te choyer. Ouais, ils vont me choyer. Ouais, c'est vraiment... Ils sont super.
C'est une belle boîte de
prod. C'est clair. Je suis hyper bien entourée. Ouais.
Bon, bah bravo.
Bah bravo à toi.
Moi, j'ai rien fait du tout, c'est toi qui as parlé tout le long.
Déjà, bravo d'avoir l'air d'avoir 30 ans alors que t'en as pas du tout. Bravo, mais bravo, incroyable.
Merci beaucoup, Laura.
Merci à toi.
On a peu parlé de ton Insta, mais si vous voulez suivre les frasques de Laura.
C'est Laura Felpin. Non, c'est Laura underscore Felpin. Ouais,
où tu viens faire vivre tes personnages régulièrement, faire des.
De petites conneries, ouais.
Ça fait plaisir, rigoler. Un grand merci à toi en tout cas.
Merci
à
beaucoup.
Plus. Ciao.
Ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.